êtes à l'écoute de Paroles de vie, soyez les bienvenus. Un tel achète un champ avec un contrat d'achat en bonne et due forme, tel autre perd sa femme et ne porte pas le deuil, tel autre encore prend pour femme une prostituée et lui donne un fils, un autre a une vision et la met par écrit, etc. De qui est-ce que je parle? Mais des prophètes de l'Ancien Testament, bien sûr, des Jérémie, Ézéchiel et autres Habakkouk. Ils ont posé des actes symboliques, ils ont mimé des scènes et harangué les foules au nom et sur ordre d'un Dieu qui se révèle de mille et une manières. D'une certaine manière, notre invité, Henri Quinson, a fait de sa vie un geste prophétique qui interpelle particulièrement en ces temps de crise. Nous allons l'écouter sur 5 émissions Paroles de vie. Il est interrogé par François Sergi qui s'est rendu à la cité Saint-Paul dans les quartiers nord de Marseille.
Moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille, vous avez déjà été pas mal médiatisé. Hein ?
C'est vrai que j'ai accepté pas mal de presse écrite parce que je pense que dans la presse écrite, on peut donner quand même des paroles qui restent. J'ai accepté aussi les radios. Personnellement, j'aime beaucoup les radios. Et puis, quelques télévisions. J'ai refusé beaucoup de télévisions. Hein. On a dû me proposer une quinzaine de documentaires. Je les ai tous refusés. Et puis, j'ai accepté quelques télévisions, dont une émission grand public chez Mireille Dumas, vie privée et vie publique, dans la mesure où, bon, je pense que Jésus ne s'adressait pas simplement aux gens dans les synagogues, mais s'adressait aux foules. Serait-il passé à la télévision ? L'aurait-on invité ? Je ne sais pas, point d'interrogation. On m'invite, lui allait un peu chez tout le monde. Je discerne quand même, mais ça me paraît important aussi de faire des témoignages pour rejoindre le plus grand nombre, et aujourd'hui c'est la télévision. Moi-même, je regarde jamais la télévision, mais je me rends compte que les Français, aujourd'hui, regardent au moins 2 heures de télévision par jour. Donc c'est aussi un moyen de les inviter peut-être à écouter autre chose, et puis peut-être pour un tout petit pourcentage d'entre eux, eh bien d'acheter mon livre Moine des cités, ou de se le procurer dans une bibliothèque, et là d'aller dans une réflexion plus profonde, qui est forcément pas possible en 10 minutes sur une antenne, mais enfin, c'est déjà un point de départ.
On va essayer d'aller un peu plus en profondeur, dépasser les clichés, parce que vous êtes l'incarnation de clichés, hein, de Wall Street au quartier nord de Marseille, donc vous êtes passé de trader à moine.
Oui, c'est important cette notion de cliché. Le sous-titre de mon livre, de Wall Street au quartier nord de Marseille, évidemment c'est simplificateur. J'ai même un journaliste qui disait « Oui, mais a-t-il vraiment travaillé à Wall Street ?» Je n'y ai travaillé que 3 mois, mais j'ai travaillé avec Wall Street pendant 4 ans. Et Wall Street, précisément, c'est emblématique des marchés financiers, tout simplement, et tout le monde le comprend, spécialement en ce moment. Les quartiers nord de Marseille, on pourrait critiquer cette utilisation aussi, puisque Marseille, c'est plus compliqué que simplement le nord et le sud, c'est évident. En attendant, les gens eux-mêmes se définissent beaucoup dans nos quartiers par cette expression « quartier nord ». Donc c'est important de partir des clichés. Mon livre, c'est surtout un livre contre les clichés, mais je pars des clichés, et d'une certaine manière, ma vie est caricaturale. Donc ce parcours, pourquoi il est caricatural ? D'abord, je suis né à Neuilly-sur-Seine. Alors aujourd'hui, avec le président Sarkozy, son image, à tort ou à raison, un peu bling-bling, mais enfin, Neuilly-sur-Seine, c'est emblématique des gens qui ont beaucoup d'argent, peut-être un côté un peu nouveau riche, etc. Donc l'argent, déjà, là où je suis né. Après, j'ai vécu aux États-Unis, mon père étant américain, et moi-même, je suis de nationalité française et américaine. Les États-Unis, pour beaucoup de gens, là aussi, c'est un cliché, mais c'est en même temps une réalité, c'est la grande puissance militaire du moment, la Nouvelle Rome, et donc être citoyen des États-Unis, beaucoup de personnes m'envient ce passeport. Après, j'ai passé une partie de mon enfance aussi en France et dans le 16e arrondissement de Paris. Le 16e arrondissement de Paris, c'est les quartiers chics, rue Jean Goujon. 6 rue Jean Goujon, c'est même l'appartement où a vécu un ministre des Finances qui s'est fait remercier parce que, justement, il habitait un appartement trop luxueux. Mes parents n'avaient que 300 mètres carrés. Lui, c'était adjugé 600 mètres carrés dans cet immeuble même. Donc tout ça, c'est très cliché. Et après, je suis trader. Trader, là aussi. En fait, le monde de l'argent peut prendre d'autres formes. Les traders manipulent en plus de l'argent. Donc c'est le monde de l'argent qui manipule de l'argent. Là aussi, c'est très caricatural. Et de fait, dans les années 80, on pouvait gagner beaucoup d'argent. Et très rapidement, j'ai gagné pas mal d'argent. Ça fait pas de moi un milliardaire, mais ça fait quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent à l'âge de 28 ans. Et à 5, comme je le dis souvent, on gérait un budget de portefeuille d'options, de change, qui correspondait à peu près au budget de la Tunisie, 15 milliards de dollars, à 5 traders. Donc c'est quand même des sommes qui font réfléchir les gens. Sur ces 15 milliards, évidemment, on n'en gagnait qu'une toute petite fraction pour nous-mêmes, mais on était très bien payés.
another crown that never could be found. And now you're here, you're lifting me off the ground. Sometimes I reach that point of view when nothing's left to say. Come along my door and make it happen your own way.
C'était Joe Siaka, What You Did To Me, ce que tu m'as fait. Henri Quinson a fait quelque chose pour Dieu, pas parce qu'il a été fait comme un rat, mais parce qu'il s'est donné librement, non sans hésitation, comme nous l'entendrons tout à l'heure. On le retrouve au micro de François Sergi.
Après, donc, je suis entré dans un monastère, dans un premier temps un monastère cistercien en Haute-Savoie. Là aussi, le monastère est un lieu qui fait beaucoup fantasmer les marchés financiers, les marchés d'échange. Les gens en parlent tout le temps, parce que ces marchés, on en dépend aussi, mais pas beaucoup de gens sont allés travailler là-bas. Et les monastères, c'est pareil, ça nous renvoie à la question de Dieu, qui est comme une question que tout le monde se pose, mais les monastères sont clos de murs, et en fait, la vie monastique, avec cette clôture, personne ne la connaît de l'intérieur. Donc c'est un autre lieu, peu connu de l'intérieur, mais dont on parle beaucoup. Et puis après, c'est dessiné pour moi une vocation à continuer une forme de vie monastique, mais dans des cités HLM, dans ce qu'on appelle les banlieues. À Marseille, il n'y a pas de banlieue, c'est les quartiers nord. Mais ce qu'on appelle les banlieues en France, précisément, c'est souvent la mise au banc d'un certain nombre de gens, et donc tout le monde en parle quand on brûle les voitures, par exemple au jour de l'an, et très peu de gens y habitent. Donc là aussi, c'est un lieu dont on parle beaucoup, mais en même temps qu'on connaît très peu. Donc ça fait quand même trois lieux dans mon existence qui sont emblématiques, dont on parle beaucoup, et que les gens de l'intérieur connaissent peu. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de livres? C'est ce que me disait un éditeur, de quelqu'un qui n'aurait pas simplement fait un parcours journalistique en trois jours dans chacun de ces lieux, mais qui a vécu de l'intérieur pendant plusieurs années. Peut-être pas, et c'est peut-être aussi l'explication du succès de ce livre. C'est-à-dire, c'est quand même un parcours, dans une certaine mesure, un peu mystérieux et emblématique des questions que se pose la société aujourd'hui.
Se pose la question du pourquoi et du comment vous êtes passé d'un univers à un autre finalement, et on voit à la lecture de votre ouvrage que ça n'a pas été évident. Vous avez eu tout un chemin de questionnement.
Oui.
On a presque parfois l'impression que c'est à votre corps défendant que les choses se sont mises en place.
Alors c'est là justement où on passe de ce parcours qui peut paraître caricatural et à coups de hache, avec des virages à 180 degrés, on passe là justement dans mon véritable parcours. Et dans mon livre, j'ai fait très attention, mais ça n'a pas été difficile de me forcer sur ce point, de montrer à la fois la complexité des questions, la difficulté d'accoucher de décisions, et de montrer qu'il y a quand même une ligne directrice dans tout ça, c'est la quête de Dieu, qui pour moi est le personnage principal de ce récit. C'est pas Henri Quinson, c'est vraiment Dieu. Et à travers ce cheminement, de voir que la vocation chrétienne, c'est pas quelque chose qui est simple. C'est pas pour autant qu'on doit être découragé, puisqu'en fait, le Dieu que j'ai découvert est à la fois excessivement simple, Dieu est amour, et en même temps excessivement complexe. C'est-à-dire, il y a mille manières d'aimer. Donc après, la question, c'est une fois qu'on a découvert l'amour, comment va-t-on aimer ? Alors, moi, c'est une vocation particulière, qui a été une vocation un peu en mouvement, mais je pense que la plupart des gens, justement, se reconnaîtront dans ce récit particulier par le fait que tout le monde est en recherche et qu'on peut parfois avoir des expériences fortes de Dieu, ce qui a été mon cas, qui vont donc sensiblement modifier notre trajectoire humaine. Pour autant, une fois qu'on commence à vivre justement de cette expérience, on est confronté à la complexité des situations. Et moi, par exemple, à l'âge de 20 ans, j'ai redécouvert la prière comme jeune adulte. Je vivais dans une famille qui était chrétienne, mais je n'avais pas fait l'expérience personnelle de Dieu dans la prière. Et cette expérience de Dieu, je le raconte dans mon livre, était très simple. Je me suis simplement adressé à Dieu en lui disant « Voilà, si tu existes, manifeste-toi à moi ». Et je peux dire que Dieu s'est fait connaître à moi dans la mesure où je suis entré dans cette expérience frustrée et j'en suis sorti comblé.
À le rendre jaloux, patient comme l'amour, il s'est fait tout petit, pétri d'humilité, il bâtissait ma vie, exister pour lui, voilà pourquoi j'existe pour lui, exister pour lui, voilà pourquoi j'existe.
Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est sur cette parole de Dieu de la part du prophète Jérémie que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'entendre une parole d'espérance en ces temps de difficultés? Alors n'hésitons pas à faire appel à Dieu, car Dieu n'est pas sourd à nos appels. L'entretien avec Henri Quinson est disponible sous sa forme écrite, c'est gratuit. Demandez-nous simplement ce texte. Au revoir et à bientôt dans Parole de vie, une émission signée Radio Réveil.
Vous pouvez obtenir le CD gratuit de la série d'émissions avec notre invité en écrivant à Parole de vie, boîte postale 310, 18007, Bourges-Sedex, France, ou via le site www.parole.ch, courriel vie@parole.ch, vie@parole.ch.